Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, initialement prévu pour cet après-midi, la plénière de clôture du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC vient d'être reportée à demain mardi. La décision est du facilitateur de ce processus après que plusieurs délégations des groupes armés décident de boycotter cette cérémonie. Les inondations continuent de sévir dans plusieurs localités du Grand Équateur depuis environ 2 mois. Elles font suite à des pluies diluviennes qui s'abattent au quotidien sur la région. Nous y revenons dans notre série de reportages liés à cette catastrophe naturelle qui a des conséquences humanitaires graves. L'invité de ce journal est la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Marie-Pierre Poirier parle de sa visite dans la zone de santé de Kanyola, en territoire de Walungu, au sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Initialement prévu pour cet après-midi, la plénière de clôture du troisième round du processus pour la paix dans l'Est de la RDC vient d'être reportée à demain mardi. La décision est du facilitateur de ce processus après que plusieurs délégations des groupes armés présentes en Nairobi décident de boycotter cette cérémonie. Uhuru Kenyatta dénonce un problème d'organisation. Le récit de fait avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papi Mukeba.
Cet avant-midi, plusieurs membres des délégations des groupes armés présents à Nairobi se sont d'abord réunis dans la cour du Safari Park Hotel, lieu où s'étaient les travaux du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC. Ils vont décider à l'unanimité de boycotter la plénière de la clôture des travaux. Selon nos sources, certains disent n'avoir pas réussi leur per diem et d'autres avoir réussi un montant d'environ $300 américains qu'ils jugent insuffisant. Par la suite, ils vont quitter les lieux de la plénière. Alerté par cette situation, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta et facilitateur de l'EAC pour le processus de Nairobi va interrompre les audiences qu'il accordait aux délégations de la société civile. S'adressant à l'assistance, sans citer les concernés, Uhuru Kenyatta va dénoncer un problème d'organisation. Il va déclarer, je cite, « Ceux qui ont organisé pour nous, c'est pour parler de Nairobi 3, ont un problème. Je suis prêt d'alerter le monde entier de ne plus donner l'argent si les gens sont incapables d'organiser des pourparlers dans les bonnes conditions », fait des citations. Uhuru Kenyatta a ensuite annoncé les reports pour ce mardi de la clôture du troisième round de ces pourparlers. Depuis Nairobi, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et puis lancement ce lundi ici à Kinshasa de la campagne de solidarité en faveur des déplacés dans les régions en conflit armé. À cette occasion, le premier ministre Samalou Koundé a remis au ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire Modeste Moutinga un chèque de 200 milliards de francs congolais. Cette enveloppe constitue la contribution du gouvernement à cette campagne, souligne le service de communication du ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire qui a livré cette information à Radio Okapi. Nous y reviendrons. L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni s'est dit très inquiet de la mauvaise ampleur de la situation sécuritaire dans la ville de Butembo, une situation caractérisée par des arrestations des civils et des viols imputés aux hommes en uniforme. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek l'a dit devant la presse hier dimanche à Butembo après la marche pacifique des fidèles catholiques, d'où son appel à la libération immédiate et sans condition de ces derniers et aux autorités de bien jouer leur rôle dans la protection des civils. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek, dans ses propos recueillis par Guylaine Kassassia.
Nous vivons dans une atmosphère de peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver n'importe où dans la ville. Et qui est à la base de ça. Donc nous ignorons. C'est comme si, bon, quand on veut, on prend son arme, on commence à tirer. Et puis là où il y a eu un coup de feu, il y a toujours des gens tranquillement chez eux qui sont malheureusement victimes. Et dans cette furie, cette violence, ceux qui ont le pouvoir peut-être de ramasser n'importe qui, celui qu'on trouve sur la route, on le prend, on l'amène à Kangwaï, sans savoir si vraiment la personne mérite d'être là. Nous demandons que ces personnes soient libérées. Donc il est inconcevable de voir des enfants en uniforme qu'on les amène à prison. Ou un enseignant qui allait donner cours, on le ramasse, que ces personnes soient libérées mais sans condition. Et on demande à ceux qui ont le pouvoir de le faire, on a l'auditorat ici, qu'ils s'impliquent dans cette affaire parce que ça les concerne. Il y aurait même eu des viols, ce qui est très grave. Nous sommes préoccupés par la guerre au sud de la province. Il ne faut pas venir commencer la guerre à Butembo.
Sachez que Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek a par ailleurs salué les efforts consentis par la coalition coalition FARDC-UPDF pour la libération de plus d'une cinquantaine de civils des mains des ADF dans les territoires de Beni la semaine dernière. En Ituri, l'évêque du diocèse catholique de Bounia dénonce le pillage des ressources de la province par des étrangers et certains Congolais. Selon Mgr Dieudonné Ouringui, ces derniers profitent de la guerre pour s'enrichir illicitement pendant que la population vit dans la misère. Il a fait cette déclaration hier dimanche dans son allocution à la tribune de Bounia lors de la marche pacifique des chrétiens initiée par la CENCO. Le prélat catholique lance un appel au gouvernement à assumer ses responsabilités pour arrêter cette hémorragie. Mgr Dieudonné Ouringui est au micro d'Isaac Rémoyopi.
Nous tous, peuple congolais, ne croisons plus les bras. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Pendant que nous nous entretuons entre nous, ce sont les autres qui profitent de nos richesses. De l'Ituri, 60-100 véhicules montent sur les bateaux pour aller à Kinshasa. Ça, nous avons vu de nos propres yeux. Les Chinois qui creusent de l'or depuis Nizi jusqu'à Mongoualou. Mais l'argent part où? Vous passez là, vous les interrogez. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a envoyé? Ils vous montrent des lettres signées par les gouvernements. Alors jusqu'à Zaka comme ça. Le gouvernement national, tout comme provincial, doit prendre ses responsabilités en main. Peuple iturien, et nous tous ici, réveillons-nous. Les évêques vous invitent à ne plus dormir.
La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuit sans désemparer à travers le pays. À Kinshasa, Tina Likula, membre du réseau de femmes leaders pour l'accès à la parole et cadre au ministère de la communication et médias, pense que ses semblables doivent travailler durement pour mériter des postes de responsabilité dans leurs professions respectives. C'est dans ce cadre qu'elle exhorte les femmes journalistes à poursuivre d'autres formations afin de faire preuve de leurs capacités dans la société. Tina Likula l'a dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Les femmes doivent prendre conscience de leur subordination pour atteindre le potentiel de leur transformation. C'est-à-dire, je dois d'abord prendre la prise de conscience. Elles doivent à chaque moment faire un effort de renforcement des capacités. Faire un effort toujours d'être formées. Je donne mon exemple. Quand j'ai quitté le FASIC, j'ai embrassé l'administration publique et directement je me suis retrouvée dans un bureau où je devais avoir la matière du droit. Parce que là, je suis dans le bureau de réglementation. Et je suis obligée d'avoir la matière de droit. Et si seulement je me limitais à mon papier, quel sera mon sort? Je ne saurais les diriger, vous comprenez? Donc la femme de médias, elle doit accéder à toutes les tendances des formations. Tu y as des difficultés parce que tu t'es limité à ce qu'on t'a appris à l'école. Mais si seulement tu y as pris des formations, ton CV te permettra aussi d'accéder dans beaucoup de postes.
Les inondations continuent de sévir dans plusieurs localités du Grand Équateur depuis environ 2 mois. Elles font suite à des pluies diluviennes qui s'abattent au quotidien sur la région. Une pluviométrie assez élevée à cause notamment de sa position de part et d'autre de la ligne de l'Équateur. Une situation consécutive également au changement climatique. Nous ouvrons à cet effet une série de reportages liés à cette catastrophe naturelle qui affecte des milliers de populations avec des conséquences humanitaires graves. Notre correspondant régional nous brosse la cartographie des zones sinistrées par ces inondations. Paul Richard Malengela.
Outre le fleuve Congo, ces inondations concernent aussi toutes les rivières qui traversent les 5 provinces du Grand Équateur, notamment l'Ubangi, la Mongala, la Ruki, la Chuapa, la Bouzira, l'Ikelemba, l'Angiri et j'en passe. Des témoins affirment que le long de la rivière Ubangi, par exemple, des milliers de riverains sont sinistrés à Yakoma. Les littorales des localités de Mobaimbongo, Zongo, Libenge, Dongo, Lilanga, jusqu'à l'embouchure sous le fleuve Congo à 100 km en aval de Mbandaka, ne sont pas en reste. Même situation à Congo, Mobeka, Makanza, d'où plusieurs riverains se sont déplacés, leurs habitations étant englouties sous les eaux. Entre-temps, à Lolo, sur la rivière Bouzira, en amont de Mbandaka, l'un des marchés qui approvisionne la ville a été déplacé à plus de 3 km sous la terre ferme. Il faut ramer à bord des pirogues sous des arbres pour aller acheter des vivres, ont indiqué les voyageurs. Dans la cité de Bongandaka, province de la Mongala, plusieurs marchandises gardées dans les entrepôts du port ont été avariées, a signalé le président de la société civile. Enfin, l'administrateur du territoire de Libenge, qui a évalué à plus de 1000 ménages sinistrés dans son entité, annonce une baisse progressive des eaux. Toutefois, Wutunongue redoute que les conséquences vont demeurer encore plus longtemps. Bandaka pour Chamalengi, la radio Okapi.
Un accord a été trouvé entre la RDC et le groupe Glencore sur les accusations de corruption qui pesaient sur les géants miniers suisses. Glencore devra verser 180 millions de dollars à l'État congolais. Cela pour mettre fin à toutes les actions présentes ou futures portant sur les accusations du groupe entre 2007 et 2018. Ces informations sont contenues dans un communiqué de presse rendu public ce lundi à Kinshasa. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
Ce communiqué précise que cet accord porte notamment sur des activités de certaines filiales du groupe qui ont déjà fait l'objet de diverses investigations, notamment par la justice américaine, la Cellule nationale des renseignements financiers ici en RDC, ainsi que le ministère de la Justice congolais. C'est ainsi qu'en application de cet accord, Glencore versera la bagatelle de 180 millions de dollars américains d'euros pour le compte de ces sociétés liées en RDC, accusé de corruption pour toutes les actions présentes mais aussi futures pour des faits entre 2007 et 2018. Le géant minier suisse s'engage également à déployer en RDC un programme d'éthique et de conformité. Pour rappel, en 2018, Glencore avait été assigné par le département américain de la justice dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption liée à ses activités au Nigeria, au Venezuela et en RDC. L'entreprise avait plaidé coupable. Glencore avait alors reconnu avoir distribué presque 28 millions de dollars américains à des fonctionnaires en RDC pour s'octroyer leur faveur.
Au Kasaï oriental, hausse des prix de maïs sur le marché de la ville de Mbujimayi. La mesurette de 3,5 kg de maïs coûte actuellement 7 500 francs congolais. Pourtant, il y a deux semaines, elle se vendait à 5 000 francs congolais. Plusieurs causes sont évoquées par des vendeuses ainsi que les fournisseurs de cette denrée alimentaire. Dans un communiqué rendu public le week-end, le gouverneur de province interdit la sortie de toute cargaison de maïs dans la ville de Mbujimayi. Les explications avec Esther Ndalafina.
Le maïs, aliment de base de la province du Kasaï oriental, a connu depuis la semaine dernière une hausse vertigineuse de prix. Les ménagères se plaignent.
Les enfants ne mangent pas à leur faim. Certains enfants cueillent le mangue pour manger très tôt le matin. C'est vraiment la souffrance.
Les vendeuses expliquent cette hausse par la carence de cette denrée alimentaire sur le marché de Mbujimayi.
Nous vendons à 7500 et à 8000 pour gagner une mesurette de maïs comme bénéfice à nourrir aux enfants.
Les fournisseurs de cette denrée à Mbujimayi, quant à eux, évoquent les problèmes d'évacuation par la SNCC et le mauvais état des routes.
D'abord, nous sommes pendant la période de soudure. Tous les produits vivriers ne sont pas encore récoltés. Il y a aussi le manque des locomotives pour traiter les wagons de maïs achetés à l'est.
Face à cette hausse de prix de maïs, le président de l'Assemblée provinciale est descendu ce samedi dans le marché pour s'enquérir de la situation. Cette rareté de maïs a perturbé certaines activités, dont notamment celle des manutentionnaires qui travaillent sur le véhicule et celle des femmes qui s'occupent de la mouture pour les femmes ménagères. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La RDC a célébré ce lundi la Journée nationale de l'arbre, une occasion choisie cette année par les pays pour officiellement annoncer l'entrée en action du programme de gestion durable des forêts PGDF, structure nationale qui aura pour objectif de définir la politique de gestion des forêts de la RDC et l'application efficace de celle-ci. Mais déjà à ce stade du lancement de cette nouvelle structure de gestion des forêts, qu'est-ce que le gouvernement de la RDC en attend précisément? Réponse avec la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, est au micro de Dona Madimba.
Les forêts de la République démocratique du Congo, c'est le deuxième complexe forestier en termes de superficie après l'Amazonie. Et nous sommes classés cinquième en termes de biodiversité, cinquième mondiale. Le programme de gestion durable des forêts, PDG Francible, a été conçu avec les partenaires pour jouer le rôle d'appui au ministère de l'Environnement et du Développement durable, d'une part, et de mettre en place des outils de gestion, d'autre part, en vue de renforcer les capacités institutionnelles et de toutes les autres parties prenantes, avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation du couvert forestier, lequel constitue un élément très important dans la promotion d'une économie verte.
L'invité.
L'invité de ce journal est la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Marie-Pierre Poirière parle de sa visite au centre de santé de Mouirama et au centre de formation du Zégué au Sud Kivu dans le cadre du projet Résilience mis en place par trois agences, notamment UNICEF, PAM et FAO. Elle répond aux questions de Rachel Kessembangou.
Marie-Pierre Poirier, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous emmène en visite à Bukavu aujourd'hui?
Bien, nous avons un bureau sous-national ici qui fait un travail formidable pour améliorer la situation des enfants dans leur province. Et ce qui était très intéressant, c'est que nous travaillons sur un concept un peu complexe, la résilience, avec deux autres agences des Nations Unies, le PAM et la FAO. Et nous faisons ça dans des zones qui sont défavorisées, où il y a plusieurs années, beaucoup de déplacements liés au conflit. Ce sont des zones où les indicateurs sociaux pour l'enfance sont problématiques. On note en particulier beaucoup de malnutrition des enfants. Donc il y a beaucoup de besoins, les ressources sont limitées, et l'idée c'était de voir comment, aux côtés des acteurs gouvernementaux au niveau décentralisé, en mobilisant aussi des ONG locales, des partenaires locaux qui connaissent vraiment bien le milieu, comment on peut travailler avec des synergies pour faire une vraie différence pour les enfants.
Vous avez visité ce samedi la zone de santé de Kanyola, dans le territoire de Walungu, où vous avez notamment échangé avec des familles sur leur expérience en rapport avec le bien-être des enfants. En gros, quel est l'impact de votre visite par rapport aux constats que vous avez faits sur terrain?
C'était très intéressant d'arriver dans le centre de santé et de discuter avec l'infirmier titulaire. Et donc, on voyait comment, petit à petit, les mamans étaient informées de faire le suivi nutritionnel de leurs enfants et comment, là, l'UNICEF entre en jeu si jamais l'enfant est vraiment très mal nourri ou le PAM si la situation est modérée. Et c'était très encourageant que, malgré les difficultés, le nombre d'enfants qui étaient référés a diminué. Ça veut dire que la malnutrition diminue. Les résultats sont là, il faut maintenant peut-être les passer à l'échelle parce que il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement, beaucoup de mamans qui ont besoin d'être formées. Et l'idée, c'était de mobiliser toute la société. Vous voyez qu'à très court terme, ce n'est pas quelque chose qui prend des décennies. Avec une information toute simple, avec une mobilisation, on peut vraiment faire une différence pour les enfants.
Voilà, vous avez visité, vous avez eu des échanges, notamment avec des jeunes. Pour quelle fin avez-vous effectué cette visite?
L'idée avec la visite pour les jeunes, c'est que les temps sont durs. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas de travail et à cause de la situation économique vulnérable de leurs parents, certains ne peuvent pas continuer l'école très longtemps. C'était très frappant que la décision de Son Excellence Monsieur le Président de mettre l'école primaire gratuite a eu un impact, hein, parce que la plupart de ceux avec qui on a parlé sont allés à l'école primaire. Maintenant, quand ils arrivent à la fin, la famille ne peut pas continuer à financer les études. Donc là, le projet était de leur donner des compétences, mais des compétences qui pouvaient vraiment leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent après avoir un métier. On a visité un atelier de menuiserie. En 4 mois, elles étaient déjà en train de faire un banc magnifique. C'est l'exemple que ces formations ont des résultats. On a aussi visité un autre qui était un atelier de couture avec des créations de mode très jolies. J'ai d'ailleurs acheté une robe moi-même. L'idée, c'était que ce projet aide la résilience au niveau personnel, c'est-à-dire donne des capacités aux jeunes pour qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes, s'occuper de leur famille et contribuer à la société.
Vous avez effectué votre visite. Quelles recommandations faites-vous à vos équipes ici sur place?
Bon, la première recommandation, c'est bravo pour l'effort, bravo pour les résultats. Et maintenant, comment on va passer à l'échelle? Les besoins sont énormes, la motivation des populations est là. C'est clair que toutes ces personnes défavorisées n'attendent que l'opportunité, le petit coup de pouce qui va les aider à aller de l'avant. Et tous ces jeunes et toutes ces familles sont prêtes à faire leur partie. Il faut donc qu'on apprenne les leçons de ce projet, qu'on apprenne aux mamans à détecter la malnutrition, à prendre action tout de suite, qu'on apprenne aux papas à faire équipe avec leur épouse pour s'occuper des enfants et qu'on soit aux côtés du gouvernement pour que ces expériences qui sont un petit peu innovatrices mais qui ont le pouvoir d'être transformatrices puissent être vraiment soutenu, qu'on passe à l'échelle avec une durabilité dans le temps, ce qui fait que même si les soutiens diminuent, les populations peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Et c'est tout le message de cette visite. On apprend les leçons pour améliorer les choses et on passe à l'échelle.
Marie-Pierre Poirier, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal et la directrice régionale UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Marie-Pierre Poirier était avec Rachel Kessembangou. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.